Réflexion de philosophie sur le mal donné par le père Philippe à Saint-Joseph en juillet 1986. Première conférence de la journée du 7 juillet 1986.
Parce qu'on est souvent passionné quand on veut libéré. Alors il y a eu un élément passionnel qui a empêché que cette libération, qui était légitime, plus on est croyant, plus on devrait être intelligent. Oh, c'est pas toujours le cas. Les journaux dits catholiques ou chrétiens ne sont pas les plus intelligents. C'est un fait. La presse dit catholique, c'est pas toujours la plus intelligente. L'art dit chrétien n'est pas toujours ce qu'il y a de plus artistique. Alors que ça devrait être comme ça. Si la foi est bien comprise, ça devrait être comme ça. Or, de fait, c'est pas toujours comme ça. Alors, il y a une libération qui s'est faite sur un point de vue. À la place de libérer l'intelligence pour une recherche de la vérité, on a libéré l'intelligence pour une recherche de la certitude. Au fond, c'est le grand problème de Descartes. C'est la certitude. Vous voyez, le vieux philosophe Aristote, que nous aimons bien, le vieux philosophe Aristote dit que les erreurs à la source ont d'immenses conséquences ensuite. Eh bien, je crois que cette petite erreur, à la place de rechercher la vérité, on recherche la certitude. Ça va très loin. Ça va très loin. Descartes est un homme, on dirait aujourd'hui, avec la psychologie, anxieux, peut-être un peu angoissé, et qui cherche la certitude. Est-ce qu'il y a des certitudes en dehors de la foi? Est-ce qu'on peut avoir une certitude au plan purement philosophique? Il cherche la certitude, c'est ça qu'il cherche, avant tout et en premier lieu. Alors ça a beaucoup de répercussions sur tout le reste, parce que c'est pas tout à fait la même chose. La recherche de la vérité et la recherche de la certitude. La recherche de la vérité implique quelque chose d'objectif. La recherche de la certitude implique quelque chose de subjectif. La certitude est subjective. Et c'est très vrai, les degrés de certitude par rapport à telle ou telle chose dépendent énormément du sujet et de l'attitude subjective dans laquelle on est, de l'attitude affective. Il y a beaucoup de certitudes qui sont purement affectives. Ce sont les certitudes qui nous touchent le plus, les certitudes affectives. Savoir qu'on est aimé. Il y a des gens qui ne peuvent respirer à partir de ce moment-là. Moi, je comprends. Parce que c'est la chose principale. Mais c'est pas, vous voyez, c'est une certitude. Donc, c'est nous qui nous mettons dans tel ou tel état. On est dans tel et tel état quand on est certain. Certain, effectivement, certain de telle ou telle donnée, et ainsi de suite. On verra du reste la répercussion par rapport au mal. Ce serait très intéressant de voir quand on cherche la vérité et quand on cherche la certitude, que devient le problème du mal dans une recherche de certitude. Ce qui est sûr, c'est là, on voit très bien toute la grande différence. Et c'est un grand tournant. Parce qu'on est tous cartésiens. Bon, si on est français. On est tous kantiens, si on est allemand. Et comme l'Europe est en train de se faire, beaucoup de Français sont kantiens. C'est comme ça que l'Europe se fait. Alors, c'est vrai que Descartes a joué un rôle très très important. Ça, il faut le reconnaître. Et que vous voyez constamment des gens qui réfléchissent, qui n'ont pas lu Descartes ou qui l'ont lu quand ils étaient tout jeunes, qui ne l'ont plus relu du tout. Ils sont cartésiens. Alors, il y a quelques données cartésiennes qui sont très curieuses. Alors on pourrait dire, hein, Descartes n'est pas du tout une génération spontanée. Pas du tout, pas du tout. Descartes a eu des maîtres qui étaient des Suarésiens et des pères jésuites. Je peux le dire en comme... Alors, il a eu des maîtres qui étaient des suarésiens. Et ces maîtres suarésiens étaient influencés par Occam. C'est pour ça que le grand tournant, c'est pas Descartes. Descartes, il parle la langue française. Tandis qu'Occam, non. Et vous savez bien, la communication, ça joue beaucoup. De sorte que Descartes a eu une influence énorme. Et ce ne sont que les savants qui remontent à la source première et disent « Ah, il y a Occam ». Et c'est vrai, le grand tournant, c'est Occam. Occam, 14e siècle. Un théologien anglais et un franciscain. Vous voyez ? Alors, vous voyez, cette chose curieuse. Les franciscains et les pères jésuites vont se donner la main avec Occam, Suarez, Descartes. C'est intéressant de voir ces trois. Ça, c'est l'histoire, mais c'est important quand même. Il faut savoir ça. Il faut savoir ces petites données, parce qu'il n'y a pas de génération spontanée. Génération spontanée, non. Il y a des influences souterraines. Et souvent, les grandes influences sont souterraines. Elles sont très cachées. Celui qui manifeste, celui qui crie, il y a derrière lui des quantités de gens qui ont pensé. En Descartes, lui, il a crié. Ça, c'est sûr. Et il était persuadé, très convaincu de sa valeur. Pour écrire un livre sur la méthode, très convaincu de sa valeur. Pour écrire les méditations métaphysiques, très convaincu de sa valeur. Très convaincu qu'à partir de lui, on tournera le dos à Aristote. Il est convaincu de tourner le dos à Aristote. C'est dans ce sens-là que la Sorbonne a tourné le dos à Aristote pendant des années et des années. Et c'était très très beau de tourner le dos à Aristote en disant « Saint Thomas, aristotélicien, tournons le dos à ça, parce que ça, c'est confessionnel. Ce qui est libre, c'est Descartes. » Alors, à partir de Descartes, on peut dire qu'il y a un grand aspect nouveau. Ce n'est plus la vérité qu'on cherche. En gros, dites-vous que depuis les premiers Grecs, Hésiode, jusqu'à Thomas d'Aquin, on cherche la vérité. Ça, je crois. En gros, depuis les premiers Grecs, Hésiode invoque les muses pour chercher la vérité. Dans son livre Les Travaux et les Jours, et dans son livre de la Théogonie, Hésiode est un grand bonhomme. 6e siècle avant Jésus-Christ. Oui. Donc 6e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à saint Thomas, recherche de la vérité. Et pour saint Thomas, c'est très net. Tous ceux qui cherchent la vérité sont des amis. Si tu cherches la vérité, on est amis. Si tu ne cherches pas la vérité, c'est pas la peine, on ne s'entendra pas. Tandis que si tu cherches la vérité, on est amis. Et dans la mesure où on a découvert la vérité, on est une autorité. L'autorité, c'est celui qui a découvert la vérité. Si on n'a pas découvert la vérité, non. Tu restes sans l'opinion, pas la peine. Tandis qu'au contraire, si on a découvert la vérité, ah, c'est autre chose. Et dans la mesure où on a découvert la vérité, on est une autorité. Alors on nous aide. On marche en cordée. C'est si difficile de chercher la vérité. On marche en cordée, on cherche la vérité. Parce qu'il y a une objectivité qui demeure. À partir de Occam, souterrain, mais surtout Descartes, ce n'est plus la recherche de la Hésiode, à Thomas d'Aquin, la vérité et la finalité. À partir de Occam, donc de Descartes, pour nous, à partir de Descartes, recherche de la certitude, recherche de l'efficacité, l'efficience. L'efficience passe avant la finalité. Plan pratique. Et la volonté devient pour Descartes une volonté d'efficacité. Une volonté d'efficacité et non plus une volonté comme capacité d'aimer. Donc la finalité disparaît devant l'efficacité. Devant cela. Alors, de Descartes à Hegel, il y a une continuité. Hegel représente le grand philosophe génial. Il n'est pas hegelien, il faut reconnaître qu'il est quand même très puissant. Et à partir de Hegel, l'éclatement. Et nous vivons dans l'éclatement philosophique aujourd'hui. On ne sait plus ce que c'est que la philosophie. On ne sait plus. Chaque philosophe a son système. Vous êtes un petit peu comme une œuvre artistique. On cherche avant tout à réaliser une œuvre originale. Donc ce n'est ni la vérité ni la certitude. C'est une œuvre. C'est l'œuvre qu'on cherche. Je me souviens, un de mes amis, qui est mort maintenant, c'était Charles de Coninck, un bon flamand, qui a eu ses études à Louvain et qui était au Canada. Dans son année sabbatique, il est passé à Fribourg me voir parce qu'on avait des amis communs. Alors il m'a dit, je m'amuse beaucoup, je vais visiter les universités. On me demande tout le temps, qu'est-ce que vous êtes en train d'écrire? Quel est le livre que vous êtes en train de faire? Alors je réponds, je cherche à comprendre ce que c'est que l'eau. Alors on me regarde, il est complètement fou. Complètement fou. Mais pourtant, c'est très important, qu'est-ce que c'est que l'eau? Saint François parlait de sa sœur, l'eau. Vrai, quand vous donnez la formule chimique, vous croyez savoir ce que c'est que l'eau? Non, non. Qu'est-ce que c'est que l'eau? Comme élément fondamental. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. La raison sine qua non pour qu'il y ait vie. S'il n'y a pas d'eau, la vie ne peut pas apparaître. C'est quand même important. Savoir comment il y a un lien entre l'eau et la vie. Alors, quand je dis ça, jeune Amézi, je redirai, je suis en train d'écrire un livre de philosophie, de métaphysique sur telle ou telle chose. Ah oui, voilà, voilà. C'est un grand philosophe, il écrit des bouquins. Si vous n'écrivez pas de bouquins, vous n'êtes pas un philosophe. Alors que le philosophe, c'est celui qui pense. Et autant que possible, qui pense juste. Autant que possible. Qui dit la vérité, qui recherche la vérité. Vous voyez, je crois qu'il faut bien, c'est assez vite fait, la carte de notre philosophie occidentale, c'est assez vite fait, la grande montée jusqu'à Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin représente un sommet, ça c'est vrai, l'Himalaya avec Aristote, deux grands sommets. Deux grands qui se regardent. Ça, je crois. Et quand on a atteint un sommet, il y a des chutes. Et 30 ans après saint Thomas, Occam est né, 14e siècle. Et puis alors, à partir de là, c'est tout à fait autre chose. J'allais presque dire, comprenez bien, hein, entre guillemets, c'est la modernité qui naît. C'est très très curieux. Si on veut comprendre ce qui se passe dans le monde actuel au plan philosophique, si on ne voit pas Occam, on ne comprend rien du tout. Occam, Descartes. des réponses à cette idéologie athée, des essais, des méthodes multiples et diverses. Il n'y a plus aucune recherche de la vérité. Je me souviens, il y a déjà quelques années, c'était un étudiant que je connaissais bien, que certains d'entre vous peuvent connaître, c'était le père Molinier, qui était l'étudiant de philosophie classique de ce temps-là, préparant son agrégation déjà depuis plusieurs années, ayant fait 8 ans ou 9 ans de philosophie à la Sorbonne, très critique, hyper critique. Se convertissant et entrant dans l'ordre de Saint-Dominique. Alors, quand il est passé devant le conseil pour savoir si c'était sérieux sa vocation, on lui a demandé « Lequel de vos professeurs en Sorbonne a-t-il eu une influence sur vous ?» Il a réfléchi. Il a répondu « Aucun ». Il a dit « Pourquoi ?» Aucun ne recherche la vérité. Et je crois que c'était vrai. C'était un peu audacieux de la part d'un étudiant, mais il était un vieil étudiant agrégatif. Il savait ce que c'est. Aucun ne recherche la vérité. Et c'est vrai. Si vous ne recherchez pas la vérité, avez-vous une autorité? Je vous ai dit, on a d'autorité au plan philosophique que dans la mesure où on recherche la vérité. Et que dans la mesure où on l'a tout.
Ennuis, je vous en dispense parce que c'est très ennuyeux de
parler devant des gens qu'on ennuie. C'est très très gênant. C'était la devise de Père Dominicain quand il a passé du point de vue étudiant au point de vue professeur. Il disait, j'en ai bavé, ils s'en baveront. Comme devise pour l'enseignement. C'est pas tout à fait ce qu'il faut. Alors je vous en supplie, n'en bavez pas. Et alors si ça vous... Vous pouvez très bien prendre l'air. Il y a de l'espace. Le tout, c'est pas bavarder autour du couvent. Donc, des carrefours l'après-midi. À l'heure où on fait la sieste pour se réveiller. Alors, des carrefours l'après-midi, c'est pas mauvais du tout de les faire à cette heure-là. Mais c'est tout à fait facultatif. Alors, on va organiser les carrefours. Sitôt la conférence, ceux et celles qui veulent faire des carrefours, qui veulent avoir des carrefours, iront dans la salle à côté. Saint Thomas. Ici c'est Saint Jean, là-bas c'est Saint Thomas. Non, alors vous passerez de Saint Jean à Saint Thomas, parce que Saint Thomas, c'est les disputations. Donc ça peut aller, on peut discuter là. Alors ceux et celles qui voudront les carrefours. Et on va faire des petits groupes avec un chef de ville. Mais c'est pas du tout obligé. Hein. Si vous aimez mieux réfléchir, prier, lire, vous êtes tout à fait libre. Il faut qu'il y ait la sainte liberté dans une session philosophique avec quelques points sur lesquels on est très exigeant. À l'intérieur du couvent, le silence. C'est une bonne discipline philosophique. Comme ça, vous pouvez réfléchir un peu plus. Le silence pendant les conférences et le silence dans la maison. Parce qu'on est quand même un couvent. On est un monastère, donc le silence dans le couvent. Et autour, si vous voulez parler, parce que je ne vais pas demander le silence, ceux et celles qui n'en ont pas envie, parler dans le parc, parler sur l'agora, parce que l'agora faisait beaucoup de bruit au soir, et aujourd'hui, alors au moins, heureusement, là vous parlez, quand vous voulez vous aller visiter, vous aller descendre, très belle petite promenade, la seule belle promenade qu'il y a ici, descendez pour aller à la Loire, ça vaut la peine. Vous allez passer toute l'après-midi là-bas, c'est calme, paisible, très très bien, et pas loin, ça se fait très facilement. Pour garder le silence ici, vous voyez, je crois que ça c'est très bon, il n'y aura pas de pions qui vous diront une amende, ce serait une manière de s'enrichir. Vous mettrez des amendes pour ceux qui parlent, mais on ne fera pas ça. Alors on vous demande de le faire parce que c'est important pour que le couvent, dans sa marche, continue de garder le silence. Vous savez bien que normalement, je dis normalement, les religieux gardent le silence, sauf petite récréation après le repas. Autrement, ils gardent le silence, alors il ne faut pas troubler le silence. Ça, je vous le demande, c'est bon. Et c'est bon pour vous, c'est excellent pour vous. Parce que je crois qu'on fait beaucoup plus de progrès plan de vue, réflexion, quand on garde un peu plus de silence. Si on garde plus de silence, on réfléchit plus, on peut méditer, réfléchir sur ce qui a été dit. Là, je le rappellerai, sitôt la conférence, on se réunit de l'autre côté. Alors maintenant, nous allons entrer tout de suite dans ce sujet très difficile et très vaste du mal. C'est un fait très curieux. C'est un fait que dans la philosophie grecque, donc le berceau États-Unis que la Grèce a produit ça, le moins dans un lieu de prière. Et quand vous regardez en Grèce, ça a été quand même à Athènes un lieu de grande réflexion philosophique et artistique. Bon, la philosophie grecque est une philosophie qui de fait a très peu développé le problème du mal. Il ne l'ignore pas. Il ne l'ignore pas. Pour Platon, le mal, c'est la matière. La matière est source du mal. Platon n'est pas manichéen, mais c'est proche. La matière, c'est le non-être. C'est source d'errance. C'est la causalité errante. Tous les accidents proviennent de l'indétermination de la matière. La matière, c'est l'indéterminé. Alors, à ce point de vue-là, il considère que le corps est le tombeau de l'âme. Et que le corps est un poids terrible. Que les passions sont source d'errance et d'ignorance. Et que c'est l'ignorance qui est le grand mal. Il y a des tas de choses vraies, hein, mais c'est pas entièrement vrai. C'est très intéressant à ce point de vue-là. Platon représente le premier philosophe grec qui fait une grande synthèse philosophique. Il est génial, c'est évident. Ça vous intéresse toujours de lire un dialogue de Platon. Il faudrait en lire chaque année un. C'est vite fait. C'est bon. C'est intéressant de lire un dialogue de Platon. Petit à petit, de comprendre ce que c'est que ce problème du mal chez Platon. Aristote, nous aurons l'occasion d'y revenir, va relever le défi de Platon en voyant que la matière n'est pas le mal, que le corps n'est pas le tombeau de l'âme, que le corps a sa dignité et que les passions ne sont pas mauvaises, que le sensible est ordonné normalement vers l'intelligible, que le sensible n'est pas mauvais, et qu'il faut au contraire essayer de comprendre que nous sommes un être un, tout en ayant des principes divers, l'âme et le corps. Chez Platon et chez Aristote, je crois qu'on peut dire que le grand problème, c'est le problème de l'âme. La psyché. L'un et l'autre sont très sensibles à ça. Tout Platon, par les influences religieuses, est avant tout celui qui recherche à savoir ce que c'est que l'âme. Et Aristote recherchera lui aussi ce que c'est que l'âme. Le problème du mal chez les Grecs. Le problème du mal chez les Grecs sera avant tout traité dans le drame. On laissera aux artistes parler du mal. Il faudrait regarder la tragédie grecque. On hésite toujours quand on fait une propension en mal d'entrer dans la tragédie grecque pour comprendre comment la tragédie grecque est commentée par la nécessité tragique du destin. Le destin implacable qui vous poursuit si vous êtes né sous une mauvaise étoile. Vous n'en pouvez rien et vous serez jusqu'au bout terrassé. C'est la tragédie grecque qui va de fait montrer ce que c'est que le mal, ce qui montre très bien n'est pas ignoré. Regardez dans Hésiode, puisque c'est le premier philosophe grec. Hésiode va montrer le mal dans les travaux et les jours. Il va montrer le mal à l'intérieur de la famille. Et pour lui, c'est la femme qui souffre du mal. C'est pas moi qui le dis, Hésiode. Il donne ce conseil. C'est un empereur. C'est un empereur qui ne devait pas être commode et qui devait être très malheureux. Alors Hésiode dit, quand tu te maries, fais attention. Fais attention quand tu te maries. Quand tu te maries et deux paires de bœufs, indispensable. Et fais attention que la femme ne soit pas le frelon dans la ruche. Une femme dépensière, elle fait que les bœufs ne rapportent plus rien du tout. Et que tout le travail ne signifie plus rien du tout. Alors ça, c'est le grand conseil qu'il donne. Voyez. Donc, quand même, il regarde le problème du mal au point de vue économique de la famille par rapport au travail. Et alors surtout chez Hésiode dans la théogonie. La théogonie, vous voyez ce que c'est essayer de mettre un tout petit peu d'ordre dans l'Olympe. La multiplicité des dieux. On va essayer de voir comment les dieux s'ordonnent mutuellement. Et bien dans la théogonie, va montrer l'origine du drame. Pour lui, le drame est divin. Il a une origine profonde. Si on a le temps, je vous lirai ces pages qui, je crois, sont très importantes. C'est dans la théogonie. On ne les voit pas assez. Et c'est des choses qui sont pourtant très, très fortes, très puissantes. Parce que cette théogonie, comprenez, l'Olympe, c'est là où Feuerbach a un peu raison. C'est la projection de toutes nos passions sur le monde du divin. Il y a une espèce de projection psychologique ou métapsychologique sur le divin. Et alors on voit très bien où il voit la source du mal. C'est pas tellement dans les travaux et les jours. C'est beaucoup plus une vision théologique du mal. Et ce qu'Aristote a très bien vu quand il dit que pour les théologiens, on commence par le non-être, par le mal. Et c'est vrai que dans Hésiode, il y a une vision du mal qui est très spéciale, très particulière, impressionnante, difficile, rude, comme toujours quand il s'agit du mal. Vous voyez, la théogonie, c'est pas de la philosophie pure, c'est quand même une vision poétique. Et les poètes sont très liés au mal, au tragique. Quand on a un peu de poésie dans le cœur, on est toujours un peu tragique. On porte la tragédie du monde. Alors ce sont les grands artistes, les grands dramaturges qui vont parler du mal. C'est très curieux. On verra, et je dis, la position stoïcienne, juste après Aristote, les stoïciens. Les stoïciens vont essayer de supprimer le mal. Par une position philosophique de celui qui domine. Je crois que c'est la première position pour essayer de supprimer le mal. Au fond, le mal n'existe pas. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous avez suffisamment de clairvoyance pour ne jamais vous inquiéter conversation intérieure. Il le dit ouvertement. Il lui dit, si ton ami meurt, mais ne t'inquiète pas, parce que tu n'en peux rien. Ne t'inquiète que sur ce qui dépend de toi. Mais tout ce qui ne dépend pas de toi, ne t'inquiète pas, puisque ça ne dépend pas de toi. Si ton épouse meurt, tu n'en peux rien. Un accident, tu n'en peux rien. T'inquiète pas, continue ton chemin. Ça, c'est la position stoïcienne poussée à l'extrême. Au fond, on absorbe le mal en ne regardant que ce qui dépend de nous et en essayant alors d'avoir cette conscience, cette lucidité toujours plus grande pour ne s'inquiéter que ce qui dépend de nous. Donc vous voyez, dans la philosophie grecque, c'est assez vite fait quand il s'agit du problème du mal. C'est qu'il faut regarder l'art. Il faut regarder la position de la matière qui est mauvaise. La position stoïcienne. Je crois que ce sont les trois grandes positions. Le mal prendra une importance beaucoup plus grande avec le christianisme. En raison même du sens du péché. Ça, je crois que le christianisme a mis très en lumière le mal. Parce que déjà, dans l'ancienne alliance, oui, c'est pas la Grèce, chez les sémites, le péché collectif, le bouc émissaire, joue un rôle très important. Quand vous lisez l'Ancien Testament, voyez que quand Dieu demande, quand Israël lutte contre ses ennemis, de les passer tous au fil de l'épée, c'est pas très drôle, hein, d'être dans le camp adverse, l'anathème vis-à-vis de tout ce qui n'est pas dans la ligne directe de l'adoration, la loi. Donne un sens aigu du péché. Saint Paul le dit. La loi est donnée pour qu'on comprenne ce que c'est que la faute. Pour qu'on comprenne ce que c'est que le péché. Elle nous éduque de cette manière-là. Ça, on ne peut pas nier. Et le christianisme assume cela d'une autre manière. Jésus apparaît comme l'agneau porte l'iniquité du monde. C'est quand même très très curieux quand je regarde ça d'un point de vue purement philosophique. Il se définit comme portant le mal du monde. C'est une définition assez particulière, assez négative. L'agneau qui porte l'iniquité du monde. Et finalement, il porte l'iniquité du monde pour sauver. Et la première vision, c'est l'agneau qui porte l'iniquité du monde. Pour sauver le monde. Mais il porte le poids d'iniquité. Donc, l'iniquité, le mal, devient au centre d'une vision de sagesse. Puisque celui qui est le sauveur apparaît lié au mal. Et c'est comme si on définissait l'homme par le mal. On définit l'agneau de Dieu par le point de vue du mal. C'est un fait. Dans l'Ancien Testament, il y a un livre sur le mal, Job, le grand livre du mal. Job qui annonce Jésus, qui annonce l'agneau de Dieu. Or, si vous lisez Job, ça peut très bien être une lecture pendant ces quelques jours. Très belle lecture, difficile, pas commode, mais extrêmement intéressante. seule réponse, ce sera l'agneau de Dieu qui porte l'iniquité du monde et qui est victorieux de cette iniquité du monde à la croix. Alors je peux dire qu'avec le christianisme, le problème du mal devient central. Je ne dis pas primordial, mais essentiel.
Je vais être fatigué. Ma journée philosophique, ça commence mal.
pour pouvoir comprendre. L'intellectuel essaie par tous les moyens d'éviter le mal. Ça, par tous les moyens. Là, il ressemble un peu au vieux garçon. Il y a des ressemblances. Le vieux garçon aussi. Mais l'intellectuel le fait beaucoup plus consciemment. Il le fait pour un but plus noble. Le vieux garçon, c'est pour avoir des chaussons chauds en hiver et nu-pieds en été, n'est-ce pas? Alors, ça c'est tout à fait différent. Il ne veut pas s'ouvrir pour être bien dans son fauteuil. Il se contente de son fauteuil et de sa pipe. C'est suffisant. Ça, c'est sa béatitude. Tandis que le philosophe évite le mal pour la recherche de la vérité. Sachant que le mal va être un poids tel que ça va l'empêcher de rechercher la vérité. Et c'est vrai que l'intelligence rejette le mal. Ça, on va le dire. L'intelligence n'aime pas le mal. On n'aime pas de considérer ça. Tandis que le cœur, je ne dis pas que le cœur aime le mal, mais il est obligé de l'accepter. Et quelquefois, il s'y arrête avec complaisance. Pour être sûr qu'il est du cœur. Au moins, je souffre, c'est déjà quelque chose. Je ne suis pas intelligent, mais je souffre. Je souffre. On aime de souffrir parce que ça vous donne l'impression, quelquefois, vous voyez, d'être capable d'aimer. Alors on est malheureux. Il y a des gens comme ça. C'est le cœur, l'affectivité qui l'a emporté. Bon. Toute la tradition chrétienne, jusqu'à saint Thomas, avec des variantes, il y a des tas de variantes, mais en gros. Mais le problème du mal au cœur de la théologie, à cause de la croix du Christ. La croix du Christ est le sommet de la sagesse chrétienne. Le Christ crucifié est notre sagesse. Et cette sagesse ne peut pas se séparer de la souffrance, ne peut pas se séparer de la mort, ne peut pas se séparer de la tristesse et du péché. Donc on peut dire que la sagesse chrétienne, elle va assumer le mal. Alors, quand les philosophes vont quitter cette sagesse chrétienne, Descartes, que deviendra le mal? Est-ce qu'ils vont revenir à la Grèce? Il n'est pas à cause de ça platonicien, mais ils vont se gargariser d'idées. Le gargarisme philosophe, ce sont les idées. Or, les idées, c'est en dehors du mal. C'est très curieux. Le philosophe va essayer de tout ramener à ses idées. L'idée, les idées innées de Descartes, les idées innées. Chercher dans Descartes la place du mal. Chercher dans Descartes le traité du mal. Chercher ça. Pas chez Pascal, mais Pascal est un philosophe tout à fait particulier. C'est avant tout un théologien, Pascal. Alors on retrouve le problème du mal. On retrouve le problème du péché. Mais pas Descartes. Alors vous allez avoir toute une théorie de philosophes qui, par les idées, veulent essayer d'absorber le mal. Et voyez la parenté avec les stoïciens au point de vue moral. On retrouvera une alliance avec les stoïciens. Parce que les stoïciens représentent justement une éthique qui essaie d'absorber le mal. Et vous voyez, de l'amour au niveau philosophique est un moyen merveilleux d'éviter le mal, la souffrance, la tristesse. C'est très étonnant, ça. Ça explique beaucoup de choses, du reste. Alors, l'éclatement après Hegel,
que cette philosophie après Hegel
philosophie contemporaine, voir comment notre philosophie, après Hegel, s'engouffre dans le mal. Comment ça se fait, ça? Comment le problème du mal prend une telle importance? Le mal, l'injustice, au point de vue social. On est obnubilé par ça. On est saisi par ça. Alors, comment ça se fait? Il est évident que tout le contexte historique aide pour cela. C'est plus facile de parler des injustices que de parler de la justice. C'est plus facile de parler du mal que de parler de quelqu'un qui est en bonne santé. C'est plus facile. Ça s'étale. Le mal, il s'étale. Le mal est quantitatif. Et donc, il est descriptif. Essentiellement. Et je rejoins la philosophie grecque en montrant que le mal, c'est le drame de l'homme. Et c'est vrai que c'est le drame de l'homme. L'homme seul sait ce que c'est que la souffrance. L'homme seul sait ce que c'est que le drame. Alors, comme dans la philosophie d'aujourd'hui, le point de vue philosophique et le point de vue poétique ne sont plus distincts. C'est la poésie, c'est le drame qui a pris possession de la philosophie. Et la philosophie est une philosophie dramatique. C'est vrai, quand vous regardez le drame chez Sartre, vous voyez que c'est la seule chose intéressante de Sartre. C'est là où il est plus lui-même. C'est dans son drame. Et vous voyez dans le drame de Sartre, toujours, l'aspect négatif du premier. Donc vous voyez, c'est un problème à ce point de vue qui est très important dans le monde d'aujourd'hui. Je crois qu'on ne peut pas saisir ce qu'est la philosophie contemporaine si on ne saisit pas ce primat du mal. Pour comprendre le primat du mal, il faut savoir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que le mal? C'est la question que nous nous poserons. Qu'est-ce que c'est que le mal? Pouvons-nous savoir ce que c'est que le mal?